Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nin Nartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 2026 aux éditions Odile Jacob, Aidants et fiers de l'être de Nicolas Franck, avec Romain Rey, est un essai de psychologie et de santé consacré à la condition des aidants. Le livre part d'un constat simple et décisif, accompagner un proche malade, âgé, handicapé, ou atteint de troubles cognitifs ou psychiques, bouleverse en profondeur la vie de celui qui aide. Son objectif n'est pas seulement de reconnaître la valeur de ce rôle, mais aussi de montrer que l'aide durable passe par la préservation de la santé physique et mentale de l'aidant lui-même, nourri de témoignages et orienté vers des repères concrets. L'ouvrage aborde les émotions difficiles, la charge mentale, les tensions familiales, la relation avec les soignants et les dispositifs de soutien existants. Il se situe à la croisée du guide pratique et de la réflexion clinique. Sa force réside dans une approche à la fois empathique et structurée, qui cherche moins à idéaliser l'aide que la rendre plus soutenable, plus lucide et plus digne pour ceux qui l'exercent au quotidien. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, comprendre la rupture initiale de l'entrée dans l'aidance. L'un des apports majeurs du livre consiste à décrire la première phase de l'aidance comme une rupture biographique. Même lorsque des signes avant-coureurs existaient déjà, l'entrée dans ce rôle marque souvent un basculement. L'annonce d'un diagnostic, la dégradation de l'autonomie d'un proche ou la prise de conscience d'une maladie psychique ou dégénérative font apparaître une nouvelle réalité, souvent marquée par l'incertitude. Le livre montre que cette période n'est pas seulement organisationnelle. Elle transforme aussi le rapport au temps, à la famille, au travail et à soi-même. Les aidants doivent apprendre très vite, prendre des décisions, chercher des informations et assumer des responsabilités qu'ils n'avaient pas anticipées. Cette entrée dans l'aidance peut ainsi provoquer stress, culpabilité et isolement. En mettant des mots sur ce moment de déséquilibre, les auteurs apportent une forme de reconnaissance à une expérience souvent vécue dans la solitude. Le mérite de l'ouvrage est de présenter cette phase non comme une faiblesse individuelle, mais comme une étape compréhensible d'un changement de vie profond. Cette analyse aide le lecteur à mieux identifier ce qu'il traverse et à ne pas réduire ses difficultés à un simple manque de résistance personnelle. Deuxièmement, nommer les émotions complexes pour prévenir l'épuisement, le livre accorde une place importante aux états émotionnels souvent tus chez les aidants. Il rappelle que la relation d'aide ne produit pas seulement de la générosité, de la patience ou de la fierté. Elle peut aussi faire naître colère, ressentiment, remords, regret ou impression d'étouffement. Ce point est essentiel, car la représentation sociale de l'aidant valorise souvent le dévouement sans réserve et laisse peu de place aux ambivalences. En reconnaissant ces émotions, les auteurs ne cherchent pas à les moraliser, mais à les rendre intelligibles. Cette démarche a une portée pratique forte. Mieux comprendre ce que l'on ressent permet de sortir de la honte, de repérer les signes de surcharge et d'intervenir avant que la fatigue ne se transforme en épuisement plus grave. Le livre insiste ainsi sur le fait que la santé mentale de l'aidant mérite une attention spécifique. Cette perspective est particulièrement utile pour les lecteurs qui se jugent sévèrement ou qui ont le sentiment de ne pas être à la hauteur. En replaçant les affects difficiles dans une logique de charge prolongée, l'ouvrage aide à distinguer ce qui relève d'une réaction humaine normale face à une situation exigeante. Il invite donc à une forme de lucidité bienveillante, indispensable pour durer dans l'aide. Troisièmement, repenser la relation avec les soignants et l'entourage familial, un autre tome central porte sur la qualité des relations qui entourent la situation d'aide. Le livre montre que l'aidant ne fait pas face seulement à la maladie ou à la dépendance du proche. Il doit aussi composer avec les professionnels de santé, les institutions et les autres membres de la famille. Ces interactions peuvent être soutenantes, mais elles deviennent parfois source de malentendus, de frustrations ou de conflits. L'ouvrage souligne alors l'importance d'un dialogue plus apaisé, fondé sur la reconnaissance du rôle concret de l'aidant. Celui-ci possède souvent une connaissance fine du quotidien de la personne aidée, mais il peut avoir le sentiment de ne pas être écouté ou de porter seul certaines responsabilités. Dans le cadre familial, les déséquilibres de répartition de l'aide, les désaccords sur les décisions à prendre ou les jugements implicites peuvent accroître la charge déjà présente. Le livre attire aussi l'attention sur la stigmatisation qui peut toucher plus particulièrement les aidants de personnes atteintes de troubles psychiques. En abordant ces dimensions relationnelles, il élargit la compréhension de l'aidance au-delà de la seule fatigue physique. Il montre que la qualité de la coopération autour de la personne aidée influence directement le bien-être de l'aidant et la possibilité d'une aide plus stable et plus respectueuse de deux parts. Chacun. Quatrièmement, développer des stratégies concrètes pour se protéger et tenir dans la durée, l'ouvrage ne se limite pas à décrire les difficultés. Il propose aussi des pistes pour aider les aidants à préserver leur équilibre. Parmi les axes mis en avant figure la gestion du stress, le recours à l'aide extérieure, l'anticipation de l'avenir et la prise de conscience de ses propres limites. Cette orientation pratique est importante, car beaucoup d'aidants avancent dans l'urgence, en répondant aux besoins immédiats sans pouvoir penser à leur propre préservation. Le livre rappelle au contraire que prendre soin de soi n'est ni un luxe ni un abandon du proche, mais une condition d'une aide plus durable. Les conseils proposés s'inscrivent dans une logique de prévention. Il s'agit de reconnaître la charge réelle assumée, de ne pas rester seul face aux difficultés et de mobiliser les relais disponibles avant la saturation. L'anticipation occupe ici une place particulière, car l'inquiétude face à l'avenir nourrit souvent la tension quotidienne. Réfléchir en amont à l'organisation, aux solutions de soutien ou aux étapes possibles permet de réduire une partie du sentiment d'être débordé. Cette partie du livre rend l'ouvrage utile au quotidien. Elle apporte non pas des recettes universelles, mais une manière plus structurée de penser la continuité de l'aide sans sacrifier totalement sa propre vie personnelle, sociale et professionnelle. En dernier lieu, mesurer la charge d'aidance et mieux connaître les ressources disponibles, le livre insiste sur un point souvent négligé pour faire face à l'aidance. Il faut d'abord reconnaître son poids réel. Cette idée se traduit notamment par la proposition d'un aidantomètre conçu comme un outil pour aider à évaluer la charge supportée. Sans prétendre résumer toute la complexité de l'expérience, cette démarche a une valeur pédagogique forte. Elle aide les aidants à objectiver ce qu'ils vivent, à sortir du déni et à mieux comprendre quand leur situation devient préoccupante. Cette mise en visibilité de la charge rejoint la thèse générale du livre « Une aide efficace suppose la reconnaissance des besoins de l'aidant lui-même ». L'ouvrage complète cette réflexion par un recensement des aides et ressources mobilisables. Cette dimension est particulièrement utile, car beaucoup de personnes ignorent les dispositifs d'accompagnement, les possibilités de répit ou les soutiens associatifs existants. En reliant auto-évaluation et informations pratiques, le livre cherche à transformer une expérience souvent subie en situation mieux comprise et davantage accompagnée. Il contribue aussi à une reconnaissance sociale plus large des aidants, en montrant que leur rôle est essentiel mais ne peut reposer uniquement sur la bonne volonté individuelle. Cette articulation entre compréhension de la charge et accès aux ressources donne à l'ouvrage une portée très concrète. En conclusion, Aidant et fier de l'être s'adresse avant tout aux aidants familiaux, qu'ils accompagnent un parent âgé, un conjoint malade, un enfant en difficulté psychique ou un proche en perte d'autonomie. Il peut aussi intéresser les professionnels de santé, les travailleurs sociaux et l'entourage familial qui souhaitent mieux comprendre ce que recouvre réellement la fonction d'aidant. Son principal bénéfice est de donner un cadre clair à une expérience souvent diffuse, envahissante et insuffisamment reconnue. Le lecteur y trouve à la fois une légitimation de ses émotions, une meilleure compréhension des mécanismes de surcharge et des repères pratiques pour chercher du soutien, améliorer le dialogue avec les soignants et penser l'aide dans la durée. Ce qui distingue ce livre dans son domaine, c'est l'équilibre entre regard clinique, témoignage et visée concrète. Il ne se contente ni d'un discours compassionnel, ni d'une liste de conseils abstraits. Il relie les dimensions psychiques, relationnelles et sociales de l'aidance en rappelant sans cesse qu'un aidant fragilisé ne peut porter seul une responsabilité aussi lourde. Dans une littérature parfois centrée sur la seule gestion pratique, il apporte une réflexion plus globale sur la dignité, la reconnaissance et la préservation de soi. C'est ce qui en fait un ouvrage utile, réaliste et durablement pertinent. Si vous souhaitez soutenir Nicolas Franquet, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.